Pour une fois, c'est dans les chaussures du serviteur du prophète que j'aurais voulu être, pas dans les chaussures du prophète. Parce que ce qu'il a vu ce jour-là est extraordinaire. Il ne s'y attendait pas, c'était une découverte fantastique. Le prophète était à côté de lui et le serviteur tremblait parce qu'il savait que cette petite ville de Dothan était entourée de l'armée des Syriens. Et il a compris que c'était pour lui la fin. Et le prophète lui a dit, vous connaissez cette histoire, elle se trouve dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, donc ne t'inquiète pas. » Et le prophète va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie la réalité. Et le serviteur du prophète va voir tout autour de la ville le nombre incroyable de l'armée de l'Éternel qui était là pour le protéger. Il lui a simplement ouvert les yeux, il ne lui a pas donné une vision ou il ne lui a pas fait passer un film de fiction. Il lui a ouvert les yeux pour qu'il voie quelle était la réalité. Alors il a vu autour de la ville des chars et des chevaux et des soldats en armes. Les anges se sont habillés, ils ont été dans les vestiaires du ciel pour s'habiller de la manière dont les gens de cette époque s'habillaient, pour que la chose soit claire et significative aux gens de cette époque. Je me demande aujourd'hui si le Seigneur ouvrait nos yeux ce que nous verrions. Et si le Seigneur ouvrait nos yeux, que verrions-nous ? Sans doute que les anges auront été aussi dans le vestiaire du ciel pour choisir les déguisements appropriés pour qu'aujourd'hui nous puissions nous aussi comprendre de quoi il s'agit. Mais si vraiment le Seigneur ouvrait nos yeux, que verrions-nous ? Nous sommes avertis par les Écritures que le monde est impliqué dans une grande guerre. Cette guerre qui a commencé dans le ciel, nous dit le livre de l'Apocalypse, s'est étendue jusqu'à la terre. On apprend qu'il y avait guerre et que Michel a vaincu. Mais on apprend aussi que la terre s'est ouverte à cette guerre et qu'elle est devenue un véritable champ de bataille. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous rappelle que cette guerre dans laquelle l'humanité est impliquée est une guerre qui dépasse la mesure de celle que nous connaissons. Tournez avec moi dans les pages de votre Bible, voulez-vous, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, où l'apôtre va prendre cette comparaison pour nous faire comprendre la nature de ce combat. Nous n'avons pas toujours l'impression d'être dans une guerre, mais de temps en temps, cette guerre invisible fait une intrusion dans le monde visible où nous sommes, et nous en sommes bien souvent aussi les victimes. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, il est écrit ceci, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une guerre, nous savons ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle ce vocabulaire-là est utilisé dans les Écritures pour nous faire prendre au sérieux la situation dans laquelle se trouve l'univers. Aujourd'hui, les hommes déclenchent des guerres pour des raisons très égoïstes. C'est parce qu'il y a souvent une question d'argent à la clé. C'est pour gagner plus. Ou c'est pour étendre son territoire. Les guerres aujourd'hui sont des guerres d'intérêt personnel. On va faire une guerre pour préserver le flot du pétrole. On va faire une guerre pour acquérir de nouvelles richesses naturelles. On va faire une guerre pour augmenter son influence ou sa puissance. Ce sont là les intérêts que les hommes veulent défendre auprès de se battre ou de se tuer. Ce sont les raisons de ces guerres modernes que nous connaissons et qui coûtent si cher. Mais Satan, lui, lorsqu'il fait la guerre, ce n'est pas pour avoir plus d'or ou plus de richesses naturelles. Ce n'est pas pour avoir plus de pétrole, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Lorsque Satan est engagé dans une guerre, nous comprenons qu'il s'agit là d'une guerre spirituelle, mais nous sommes parfois tentés de lui donner les mêmes intentions que nous et de penser que finalement, si c'est simplement pour augmenter son pouvoir, nous y sommes habitués à cette stratégie-là finalement. Mais en fait, la raison pour laquelle Satan est en guerre contre Dieu, ce n'est pas pour les mêmes raisons que nous. En fait, c'est parce que Satan veut contrôler l'esprit des êtres humains. Dans le passé, Satan a utilisé des stratégies finalement assez simples et assez rudimentaires pour atteindre ses objectifs. Sa stratégie la plus ancienne était de faire mourir les serviteurs de Dieu. Abel a été le premier, et après lui, une quantité incalculable de serviteurs de Dieu ont été mis à mort. Les persécutions. Et puis il a essayé de détruire les Écritures, la parole de Dieu, pour empêcher les êtres humains de s'attacher à lui et de le connaître. On a brûlé des Bibles par milliers. Et puis, ne pouvant pas les brûler toutes, il a trouvé le moyen d'en faire interdire la lecture, pour que, encore une fois, les êtres humains n'apprennent pas à connaître et à aimer ce Dieu qui a donné sa vie en Jésus-Christ pour nous sauver. Et puis, il a introduit dans l'Église des erreurs souvent grotesques, de changer par exemple un commandement pour un autre, conduire les croyants à avoir leur culte un mauvais jour, le dimanche au lieu du samedi, ou de croire que les morts montent au ciel directement, ou de croire dans la prédestination, c'est-à-dire que Dieu a déjà décidé, celui-ci est perdu, celui-ci est sauvé, ou de conduire les gens à adorer de nouveau des idoles, des images de bois, de pierre ou d'or. Autrement dit, des enseignements finalement assez grotesques, assez rudimentaires. Mais aujourd'hui, le diable cherche des armes plus efficaces, plus subtiles, plus puissantes encore. Parce qu'il s'est rendu compte que le sang des martyrs était une semence de chrétiens. Et c'est vrai que, ayant usé jusqu'au bout cette stratégie à faire souffrir et à faire mourir les croyants, il a décidé d'utiliser un autre moyen. Au lieu d'utiliser l'épée, il a utilisé le tapis rouge. Et il a développé le tapis rouge de la facilité devant le christianisme et devant les chrétiens, pour que, s'ils ne tombent pas par l'épée, ils tombent sur le tapis rouge. Et c'est vrai que ce moyen-là a été utile, et reconnaissez avec moi que dans notre vie, c'est une stratégie qui peut marcher encore. La facilité ne nous rapproche pas de Dieu d'une façon générale. Elle nous en éloigne. Alors, l'ennemi aujourd'hui cherche à contrôler l'esprit des hommes et il veut utiliser toutes sortes de moyens à sa disposition, utiliser les ressources modernes pour cela. Un moyen pour séparer les êtres humains de Dieu et pour les empêcher d'avoir accès à sa parole et au message de l'Évangile, c'est de brûler l'esprit des êtres humains, de les brûler complètement, de les détruire, de détruire leur cerveau. Alors il emploie pour ça le tabac et l'alcool, par exemple, les drogues, évidemment. Il emploie aussi la musique. Il emploie aussi le cinéma pour développer une imagination complètement perverse. Laissez-moi vous donner juste un ou deux exemples. Karl Tsassiliabis, dans son livre sur la musique et le culte, explique à quel point la musique contemporaine utilise les mêmes moyens que ceux qui sont utilisés dans les musiques païennes pour invoquer les esprits et pour faire le culte des esprits. Ou bien alors, dans son livre « Depression, the way out », Neil Nedley cite deux médecins, le docteur Morris et le docteur Mander, qui ont étudié le phénomène de la télévision sur l'être humain. Ils ont écrit un livre, 4 arguments pour l'élimination de la télévision, et ils se sont rendus compte que la télévision, finalement, a un effet hypnotique sur l'esprit humain, parce qu'il appelle à une concentration sur un objet lumineux qui scintille et qui change tous les 3 à 4 secondes. Ces caractéristiques-là produisent une diminution de l'activité du lobe frontal et produisent quelque chose qui est très proche de l'effet hypnotique sur l'esprit humain. Et en effet, je crois que c'est exactement ce qui arrive pour transmettre dans la génération d'aujourd'hui des valeurs qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Ce ne sont là que 2 exemples. Autrement dit, nous sommes invités en tant que croyants à veiller d'une façon particulière sur les avenues de notre être qui sont les 5 sens. Ce sont les moyens de communication avec l'extérieur, ce sont les moyens par lesquels l'extérieur nous influence. Alors nous sommes invités en tant que chrétiens à mettre des gardes à nos 5 sens pour filtrer le passage de ce que nous considérons être acceptable ou non. Maintenant, vous le savez, l'ennemi aussi cherche à utiliser ceux qui sont dans les rangs du Seigneur pour jouer son rôle. Regardez par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Il nous est rapporté dans ce chapitre une discussion entre Jésus et ses disciples. Et il nous est dit que Jésus va prendre soin d'annoncer à ses disciples que bientôt il va subir la persécution des chefs de son peuple, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, au verset 22, Pierre réagit. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » J'ai du mal à imaginer le visage que Pierre a dû faire lorsque Jésus s'est retourné vers lui et lui a dit « Arrière de moi, Satan. » Jésus voyait au-delà de ce que Pierre disait, la stratégie de l'ennemi pour mettre un piège sur le chemin de Jésus. Et tout d'un coup, Pierre a dû réaliser que ce qu'il pensait, ce qu'il disait, n'était effectivement pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes manipulées par le diable. Il a dû, ce jour-là, être frappé par la manière dont l'ennemi pouvait l'utiliser, lui, pour faire du tort à son sauveur. Et ce n'est pas la dernière fois dans les évangiles que le diable va utiliser Pierre pour faire du tort à son sauveur. La leçon va être longue et difficile à apprendre. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui de se souvenir que le diable, si autrefois il a utilisé des stratégies brutales et parfois même grotesques ou simples, il va aujourd'hui essayer d'utiliser ce qui est même la force du christianisme pour le détruire. Utiliser les éléments propres au christianisme, les tordre, les déformer, pour faire son jeu à lui. Nous sommes engagés dans une guerre, et cette guerre, si nous l'appelons spirituelle, est une guerre d'autant plus subtile. J'aimerais justement ce matin attirer votre attention sur 2 outils, parmi d'autres que nous pourrions voir, que le diable utilise et qu'il emprunte au christianisme lui-même. Le premier de ces outils, c'est la repentance. La repentance, c'est quelque chose que le Seigneur met dans notre cœur. La repentance, c'est reconnaître notre état, reconnaître notre faute, c'est nous donner à Dieu et c'est nous présenter à lui pour qu'il nous pardonne nos fautes parce que nous reconnaissons que ce que nous faisons et que ce que nous sommes lui cause du tort. La repentance, c'est cette réalisation de notre état et c'est cette capacité de venir à Dieu pour qu'il donne une solution à ce problème. Dans le livre « Vers Jésus », à la page 78, se trouve ce texte que vous connaissez bien, dans lequel il y a 7 étapes dans notre marche vers Dieu. Écoutez ceci. Vous avez confessé vos péchés, vous les avez délaissés de tout votre cœur, vous avez pris la détermination de vous abandonner à Dieu. Maintenant, allez à lui, demandez-lui de laver vos péchés et de vous donner un cœur nouveau. Et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il l'a promis. Si vous croyez à la promesse, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéri. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites, je le crois, non parce que je le sens, mais parce que Dieu l'a dit. Vous avez remarqué ces 7 étapes ? Vous confessez vos péchés. Deuxièmement, vous les avez délaissés. Troisièmement, vous avez pris la détermination de vous abandonner à Dieu. Quatrièmement, vous allez à lui. Cinquièmement, demandez-lui de laver vos péchés. Sixièmement, de vous donner un cœur nouveau. Septièmement, croyez. Une démarche qui nous amène à reconnaître ce que nous sommes et à reconnaître en même temps que nous n'avons pas la clé pour résoudre le problème. Alors nous le donnons à Dieu. Et ce texte nous fait comprendre qu'une fois que l'on a donné à Dieu ce péché, croyons que le Seigneur va accomplir sa promesse, non parce qu'on a quelque chose à l'intérieur que l'on ressent ou une espèce d'éclair froid ou chaud qui nous traverse la colonne vertébrale, non, parce que Dieu l'a dit, autrement dit sur la base de sa parole. Maintenant, le diable va utiliser cette repentance et la transformer dans une introspection. On va jeter un regard continuel et critique sur soi-même. On va essayer d'aller chercher dans les profondeurs de notre être ce qui ne va pas. On va être centré sur soi pour aller chercher au tréfonds de notre être ce qui n'est pas en harmonie avec ce que nous pensons être bien. C'est un mouvement mystique qui a conduit des gens à se retirer du monde et à passer tout leur temps à s'auto-analyser pour savoir ce qui en eux n'allait pas. C'est cet état d'esprit-là qui a conduit ces gens de bonne volonté, comme Martin Luther avant sa conversion, à se flageller, tant en regardant en lui-même, il ne voyait rien de bon. En fait, c'est une distorsion, une transformation, une déformation de ce qu'est l'esprit de repentance. Dans le livre « The Upward Look » à la page 114, Ellen White écrit ceci. « Par l'auto-examination profonde de soi, Satan travaille pour ruiner les âmes et son œuvre peut se voir aussi dans l'Église. Mes frères et sœurs, surveillez scrupuleusement votre esprit et vos paroles pour que le diable ne vous fasse pas répéter sa propre histoire. » Intéressant de voir à quel point le diable peut utiliser l'auto-examination profonde de soi pour ruiner ceux qui s'y engagent. En effet, si je regarde à moi-même, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais si je regarde à Christ, je ne vois pas comment je peux être perdu. Regarder à soi et plonger jusque dans l'infinie profondeur de son être pour essayer d'y découvrir ce qui va ou ce qui ne va pas, nous amène dans un puits profond qui ouvre en réalité la porte à l'ennemi. C'est ainsi qu'il utilise un élément essentiel de la vie chrétienne, la repentance, pour nous attirer à lui et nous mettre sous son influence. J'aimerais mentionner ce matin un autre outil que l'ennemi utilise et que nous employons et que nous ne suspectons pas être l'objet des transformations et des perversions de l'ennemi. La prière. Tout simplement la prière. Nous avons dans les Écritures des exemples nombreux qui nous invitent à la prière. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, au verset 6, cette parole de Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 6, au verset 6, il est dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Le Seigneur nous propose de nous appliquer à la prière pour une communion étroite avec Dieu. On pourrait prendre de nombreux exemples dans les Écritures. Celui qui m'est venu à l'esprit, c'est l'exemple de Daniel. Daniel qui, trois fois par jour, montait dans la chambre haute de sa maison et priait Dieu. Et c'est justement par rapport à sa prière qu'on a voulu le perdre. Trois fois par jour, immanquablement, Daniel priait son Dieu. Et puis, on a l'exemple de Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset 35. Vous connaissez ce passage qui nous rapporte l'habitude de Jésus. Évangile selon Marc, chapitre 1er, au verset 35, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Voilà l'habitude de Jésus, se mettre à l'écart pour communier avec son Père. La prière, c'est parler avec Dieu comme avec un ami. La prière, c'est cette communion, cette communication avec Dieu. Prier, c'est se tourner vers notre Créateur. C'est lui ouvrir notre cœur. C'est lui exprimer ce que nous avons à lui dire. C'est écouter sa parole. Seulement, le diable a transformé la prière. La prière est aujourd'hui présentée, même par des chrétiens, comme une expérience mystique, comme un ressenti. Quelque chose qui est essentiellement fondé sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on sent. Et ces chrétiens disent, finalement, ce qui nous éloigne de Dieu, ce sont toutes ces distractions que l'on a dans la prière. Et nous devons reconnaître que dans notre prière, nous sommes souvent distraits. Il y a mille et une idées qui nous viennent parfois et qui sont des idées étrangères à notre conversation avec Dieu. Et ne me dites pas qu'il ne vous est pas non plus arrivé de vous endormir pendant votre prière. Alors, beaucoup disent aujourd'hui, ce qui perturbe notre communication avec Dieu, ce sont toutes ces interférences qu'il y a dans la prière. Par conséquent, il faut faire le vide en soi. Et on va utiliser toutes sortes de techniques pour s'empêcher de penser, pour utiliser des méthodes qui permettent d'écarter toute pensée de notre esprit et de nous donner de nous enfoncer dans un vide où, disent-ils, Dieu se trouve. Il est nécessaire, pensent certains chrétiens d'aujourd'hui, de faire le vide et le silence total en soi pour entendre la voix de Dieu. Curieusement, je ne trouve pas cela dans la parole de Dieu. Jésus avait averti d'ailleurs ses disciples dans son temps de ne pas laisser la maison vide. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 43, Jésus explique justement cela à ses disciples. Évangile selon Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 43, il est écrit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Jésus avait averti ses disciples que la communion avec Dieu ne consiste pas à faire en nous un vide et un silence. La communion avec Dieu, c'est un dialogue avec notre Créateur, c'est un dialogue avec notre ami. Et l'on pourrait cette fois-ci reprendre tous les exemples dans les Écritures de tous ceux qui ont développé avec Dieu une communion et une vie de prière intense. Ils n'étaient pas dans le vide et dans l'absence de pensée. Ils étaient au contraire dans un dialogue, dans une interaction avec Dieu, dans une négociation même parfois avec Dieu. Pensez à Moïse. Dans le livre de l'Exode au chapitre 32, se trouve ce passage extraordinaire où Moïse, après le péché du peuple, va intercéder auprès de Dieu, plaider auprès de Dieu. Nous ne lirons pas toute sa prière, mais permettez juste qu'on en lise un extrait. Exode chapitre 32 au verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Moïse n'est pas pris dans le silence de son être, ayant écarté toute pensée, toute réflexion. Il est au contraire en train d'intercéder avec Dieu, de plaider avec lui, de négocier le salut du peuple. Je pense à Daniel. Dans son livre, au chapitre 9, se trouve cette très belle prière. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, encore une fois, nous ne voulons pas lire cette prière en entier. On en lira simplement quelques versets. Daniel, chapitre 9, au verset 17, il est écrit ceci. « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. » Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Vous entendez un homme là qui vide son cœur à Dieu, qui utilise tous les arguments qu'il peut trouver dans son esprit et dans son cœur pour négocier avec Dieu la reconstruction de son sanctuaire. On a là un homme qui plaide avec Dieu. Il n'est pas pris dans un vide où il ne pense plus. La prière, c'est ce dialogue avec Dieu où l'homme est invité à lui parler. Mais c'est aussi ce dialogue où Dieu va parler. Et lorsque Dieu demande à parler avec son peuple, ce n'est pas non plus pour se regarder dans le blanc des yeux, dans le vide de la pensée. Regardez ce qu'il est dit dans le prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Si d'un côté, les hommes dans la prière plaident avec Dieu pour qu'il entende, pour qu'il exauce, pour qu'il pardonne, d'un autre côté, regardez ce que fait Dieu. Il parle ici par son prophète. Ésaïe chapitre 1er, verset 16, il est dit ceci. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dieu lui aussi veut parler à l'homme. Il ne veut pas avoir un vide en face de lui. « Venez et plaidons, dit-il. » Alors les hommes plaident avec Dieu, Dieu plaide avec les hommes. C'est le secret de la prière et de cette communication puissante entre l'être humain et son Créateur, entre l'être humain et son Sauveur. D'ailleurs, la parole de Dieu, que nous savons être créatrice en soi, est au cœur de cet échange entre l'être humain et Dieu. Regardez dans le psaume 119. Psaume 119, au verset 103, il est dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. » Ici encore, dans ce passage, le psalmiste nous rappelle que la parole de Dieu est véritablement une nourriture douce pour lui-même, et que cette nourriture le rend intelligent. La parole de Dieu rend intelligent. Elle ne nous conduit pas dans un vide mystique. Elle ne nous conduit pas à utiliser des techniques pour arrêter de penser. Elle nous invite au contraire au renouvellement de notre intelligence, comme le disait l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. C'est dire à quel point, même au sein du christianisme, la prière est devenue un outil que le diable utilise pour exercer son influence sur ceux qui n'y prennent pas garde. Alors nous retrouvons, bien entendu, ce que la parole de Dieu nous invite à faire, c'est-à-dire la discipline de la pensée. Il ne s'agit pas cette fois de faire le vide en nous, mais d'être au contrôle de notre pensée. L'apôtre Paul disait « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». La discipline de la pensée, c'est là sans aucun doute un exercice chrétien particulièrement difficile. Et c'est sans aucun doute un exercice du chrétien pour lequel il a besoin de la grâce et de la puissance de Dieu. Dans le livre « In Heavenly Places », Ellen White écrit ceci à la page 163. Peu se rendent compte à quel point il est de notre devoir de contrôler nos pensées et notre imagination. Il est difficile de garder un esprit indiscipliné sur des pensées appropriées. Mais si nos pensées ne sont pas employées convenablement, notre religion ne s'épanouira pas non plus. Si Christ habite dans notre cœur, il sera dans toutes nos pensées. Il remplira toutes les chambres de notre esprit. C'est un devoir chrétien de canaliser nos pensées, de discipliner nos pensées. Et nous savons tous à quel point c'est un exercice difficile que la prière précisément peut nous aider à accomplir. Dans son livre « Dans le secret », Lucie Grasmuck, auteur chrétien, écrit ceci, une très belle parole qui exprime cette discipline de la pensée. C'est beaucoup moins un combat intérieur à soutenir qu'un pli de l'âme à prendre, ramenant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu quand nous le surprenons errant loin de lui. Un pli de l'âme à prendre, qui se tourne vers celui avec qui il veut communiquer, parler, échanger, partager, et qui est la source de la toute-puissance. Nous sommes dans une guerre spirituelle, nous le savons, mais dont l'enjeu n'est pas toujours ce que nous imaginons. Ce que l'ennemi veut, c'est contrôler notre esprit. Mais le Seigneur nous a donné cette faculté de choix, le choix de savoir qui va contrôler notre esprit. Et aujourd'hui, alors que le diable transforme même ce qui est propre au christianisme, pour nous en détourner, il est urgent et important que le chrétien d'aujourd'hui revête les armes que Dieu lui a données pour savoir discerner. Il est urgent que le chrétien d'aujourd'hui voie l'importance d'être animé, d'être habité par l'Esprit Saint pour discerner entre le bien et le mal. Combien il est important de recevoir ce collyre dont Jésus parlait dans la lettre qu'il envoie à l'église de Laodicée, le collyre pour être capable de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Heureusement, nous avons de la part de Jésus une promesse qu'il a faite à Pierre justement. Le fameux Pierre dont nous parlions tout à l'heure et qui avait été un outil entre les mains du diable pour tenter Jésus. À ce même Pierre, Jésus fait une promesse. À nous aussi, il fait la même. Et il lui disait, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Amen.